VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Afrique du Nord, le Front Polisario Mouvement Indépendantiste du Sahara Occidental est prêt à entamer des négociations avec le Maroc sur la base du droit des Sahraouis à l'autodétermination. C'est ce qu'a affirmé ce lundi à Alger Mohamed Kadad, membre de la direction du Polisario. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est en grande partie sous contrôle du Maroc depuis 1975 et un cessez-le-feu supervisé par la force de maintien de la paix de l'ONU, la MINURSO, est en place depuis 1991. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination alors que Rabat propose une autonomie sous souveraineté marocaine. Vendredi dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution soutenant une reprise des négociations sur le conflit du Sahara occidental, texte qui prolonge également jusqu'au 30 avril 2018 le mandat de la MINURSO. Une initiative saluée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Au Mali, la force française Barkhane annonce avoir tué ou capturé une vingtaine de djihadistes qui se cachaient dans la forêt de Foulsaré entre le Mali et le Burkina Faso. Ces djihadistes sont des combattants de la nouvelle alliance que dirige le Malien Iyad Ag Ali, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
Depuis le samedi 29 avril 2017, la force Barkhane est engagée dans une opération qui a permis de neutraliser près d'une vingtaine de terroristes dans la forêt de Foulestari, à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Ils ont tué ou capturé, a déclaré le porte-parole de l'état-major français, dans la forêt de Foulsaré, à la frontière Mali-Burkina. Une forêt réputée être le lieu de repos des combattants du djihadiste burkinabé Ibrahim Malam Diko, qui est aussi membre de la nouvelle alliance terroriste que dirige le Malien Iyad Ag Ali. C'est pour cela que l'opération a été menée à la fois par des frappes aériennes, mais au sol par des combattants maliens et burkinabés. Selon plusieurs sources, les frappes ciblées ont commencé à 5 heures du matin. Barkhane a effectué plusieurs frappes aériennes ciblant les djihadistes tout au long de la frontière jusqu'au Burkina Faso. Au même moment que cette opération se déroulait, les soldats maliens ont renforcé leur position dans les cercles de Nara et Banamba, où des véhicules de terroristes avaient été aperçus par des populations qui ont alerté les autorités maliennes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Mali toujours, le collectif des enseignants du nord du pays est en grève illimitée depuis le 6 février dernier, ce qui s'est traduit par la fermeture de toutes les écoles publiques dans la région. Malgré les nombreuses démarches entreprises par les responsables de l'éducation et de la société civile au niveau local, les syndicats ne fléchissent pas et c'est le désarroi chez les candidats qui doivent se présenter aux différents examens. Notre correspondant Agaou Boubacar Touré leur a tendu son micro.
Le gouvernement n'a qu'à trouver une solution pour ça, pour que les enseignants viennent nous enseigner. Sinon, le DEF, là, ça sera très difficile. Les professeurs qui sont en grève, je le dis seulement de faire tout pour qu'ils viennent donner un peu de coups, même si le gouvernement ne les a pas payés.
Ahimir Daouda Mega, GFM de Gao. Je lance vraiment un appel à l'autorité compétente, vraiment de faire tout pour qu'ils nous aident vraiment à surmonter vraiment ces problèmes.
Mohamed Aboubakar Touré, lycée Yana Mega, termination sociale. Nous, quand même, on n'est pas prêts. Je veux que le gouvernement repousse les dates d'un mois ou bien de deux mois.
Ah, déjà, Mohamed, je suis candidate au bac, juste pour les enseignants, quoi. Si le gouvernement nous aimait comme ils le disent, ils allaient répondre aux enseignants. Le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Leurs enfants ne sont pas au nord. Qu'on fasse tout pour sauver l'année, puisqu'on ne veut pas d'année blanche vraiment.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, au Gabon, les travailleurs gabonais n'ont pas le cœur à la fête en ce 1er mai. C'est ce qu'a expliqué à Timothée Donangma et Fridolin Ndemeza, président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée du Gabon, qui parle d'un contexte de crise. On l'écoute.
Crise caractérisée par la contestation de la dernière élection, avec tout ce qui a suivi, et la tension sociale caractérisée par la crise économique qui frappe durement notre pays et qui a pour conséquence les licenciements abusifs et couronner le tout par une augmentation de la vie. Donc la vie devient de plus en plus chère avec l'introduction des nouveaux impôts, notamment la contribution spéciale de solidarité.
Et qu'est-ce que vous attendez des autorités?
Bon, alors le manifeste qu'on va lire, on a la chance d'avoir le président en face de nous. Nous avons présenté notre amertume par rapport à ces licenciements abusifs, notamment qui se trouvent dans le secteur pétrolier, dans le secteur du bois, dans le secteur du BTP, où des milliers de travailleurs sont licenciés sans que le gouvernement trouve mot à dire. Donc on va présenter cette situation-là de désolation des travailleurs gabonais, notre mécontentement. Et nous allons également dire au chef de l'État de faire quelque chose pour que les travailleurs gabonais puissent retrouver le sourire dans les jours qui suivent.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Congo, Brazzaville, les réfugiés rwandais installés dans le pays ne bénéficieront plus de ce statut dès le 31 décembre 2017. Les gouvernements du Congo, Brazzaville et du Rwanda, en partenariat avec le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, travaillent sur cette échéance. Mais dans la communauté des réfugiés rwandais, souligne notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou, la plupart des intéressés ne veulent pas de cette mesure qui les incite à rentrer au pays natal. Il déplore aussi qu'on continue de commémorer l'anniversaire du génocide des Tutsis et pas celui des Hutus, dit l'un d'entre eux.
Vous êtes sans ignorer, vous êtes actuellement en train de célébrer le génocide pour la 23e fois. Et c'est le génocide des Tutsis. À quel moment est-ce qu'on va célébrer le génocide des Hutus? Et donc les réfugiés ont peur d'aller dans un pays où ils n'ont pas le droit.
Ces propos d'un jeune réfugié rwandais résument l'angoisse et les dépit que suscite au niveau des réfugiés rwandais le fait d'entendre qu'ils perdraient à partir du 31 décembre 2017 leur statut. Le HCR l'a confirmé et y travaille même déjà. Mohamed Nafian est le chef de bureau du HCR à Betou, au nord du Congo, où on compte quelques 1979 réfugiés rwandais.
Cette année surtout, nous sommes très sûr, il y a une clause de cessation des réfugiés rwandais qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2018. C'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2017, les Rwandais n'auront plus le statut de réfugiés. Soit le rapatriement que le HCR pourrait faciliter.
À Brazzaville, les réfugiés vivent cela comme un harcèlement. L'étudiant Patrick Mataboro n'en veut même pas en entendre parler.
Vous voyez que les réfugiés se trouvent dans des situations inconfortables à cause de ce qui se trouve, de ce que le Rwanda est en train de faire. Donc, qu'il affiche la paix aux réfugiés rwandais, qu'il laisse les réfugiés rwandais vivre en beauté, dans leur sécurité. Donc, c'est ça ce qu'on demande.
Marie-Claire Niramaoro revient sur le calvaire vécu pendant la fuite du génocide en 1996.
Nous avons peur de retourner chez nous parce que le pays que nous avons fui n'a toujours pas organisé de dialogue. Pendant notre fuite, nous avons vu dans les forêts de RDC comment les réfugiés rwandais, les Hutus en majorité, ont été pourchassés et massacrés par le FPR. Malgré tout ce qu'ils nous ont fait subir, ceux-là qui nous ont tués nous demandent aujourd'hui de rentrer au pays.
Luamba Moke, président de la DUC, une ONG locale, appelle le Congo et le Rwanda à abandonner ce projet. Dépassé un mois, dit-il, il saisira la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
À la fin de l'année 2017 et au début de 2018, que ça soit effectivement des personnes qui vont devenir des migrants clandestins et en leur qualité de migrants clandestins, ils vont être expulsés. Voilà, nous craignons cela. Et en ce moment, nous allons saisir la Commission africaine des peuples pour que la Commission puisse prendre autorité sur cette question-là.
En tout cas, les jours s'égrènent, les deux gouvernements et le HCR ont en main leur agenda. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Actualité américaine maintenant, le président Donald Trump intensifie ses contacts avec les alliés asiatiques des États-Unis en rapport avec le dossier nord-coréen. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Le chef de l'exécutif américain a eu, au cours du week-end, des entretiens téléphoniques séparés avec les dirigeants des Philippines, de Thaïlande et de Singapour, des entretiens qui interviennent après le récent tir de missile par la Corée du Nord. Selon Reince Priebus, secrétaire général de la Maison-Blanche, les États-Unis ont besoin de la coopération à un certain niveau avec autant de partenaires que possible dans la région de façon à être préparés et sur la même page. Le président Donald Trump a averti qu'un conflit majeur est possible avec la Corée du Nord et qu'il ne serait pas content si ce pays menait un autre essai nucléaire. À la question de savoir si cela signifiait qu'il est prêt à mener une action militaire contre Pyongyang, le chef de l'exécutif américain a répondu « Je ne sais pas, nous verrons ». Nous avons une situation que nous ne pouvons laisser se prolonger, a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne CBS.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.